Alain Slivinski qui a le plaisir et l'honneur de vous présenter ce bulletin d'information. Le président de la République, Václav Klaus, vient de signer la loi sur l'obligation pour les petits commerçants de posséder des caisses enregistreuses. Une loi très controversée par l'opposition et les sénateurs, mais qui a quand même été adoptée. La principale formation de l'opposition de droite, le Parti civique démocrate, se propose de l'abolir dans le cas où il accéderait au pouvoir après les prochaines législatives de 2006. À Austerlitz, Slavkovantchek, commune rendue célèbre par la bataille des Trois Empereurs et la victoire de Napoléon, se tient à partir de ce jeudi une grande exposition de bouquets de fleurs à la mode napoléonienne. Des centaines de bouquets aux couleurs bleu, blanc et jaune attendent les visiteurs. Le vernissage de l'exposition a été enrichi par une revue de mode dans le style Empire et du début du XIXe siècle. À l'exposition internationale de l'élevage et de la technique agricole, à Pšerov, le président de l'Union des éleveurs de Bohême et de Moravie, Jaroslav Jarida, a indiqué que la production de porc en Tchéquie était en baisse depuis l'adhésion de la Tchéquie à l'Union européenne. Cela en raison de la baisse des prix d'achat de la viande de porc. Dans les années à venir, la situation devrait s'améliorer. Depuis l'entrée de la Tchéquie dans l'Union européenne, le nombre de compagnies d'assurance possédant une licence en Tchéquie a considérablement augmenté. Avant le 1er mai 2004, il y en avait 42, alors qu'aujourd'hui, le nombre des compagnies d'assurance des pays de l'Union opérant en République tchèque s'élève à 199. C'est ce qu'a constaté la Conférence internationale des contrôles des assurances qui se tient à Prague. Eckhard Falber, député européen, a déclaré à une conférence de presse ce jeudi que le rapport qui sera présenté au Parlement européen au mois de septembre fait état des graves problèmes que rencontrent les agglomérations urbaines dans les pays nouveaux membres de l'Union européenne. Il s'agit surtout de la revitalisation des centres urbains et des cités, de la reconstruction des localités industrielles ou qui servaient à l'armée. Le rapport devrait servir à l'élaboration des règles pour la répartition des moyens financiers des fonds européens. Le costume folklorique de Bohème du Sud, qui avait été remis en cadeau au général américain George Patton à la libération en 1945, revient en Tchéquie. Les parents du général viennent d'en faire cadeau à la communauté des légionnaires tchécoslovaques pour qu'il soit exposé dans une salle consacrée à la mémoire du libérateur de la Bohème occidentale et du Sud en Tchéquie. Ce vœu sera accompli grâce à l'ouverture du nouveau musée de Plzeň. L'université Charles de Prague a décidé d'ouvrir un centre de vente des résultats des travaux de recherche réalisés dans ses différentes facultés. Le bénéfice de ces ventes sera employé dans le financement de nouvelles recherches. Pour terminer les informations, la météo. Après quelques jours de froid, le temps s'est mis au beau sur tout le territoire tchèque. Les températures devraient même tourner autour des 20 degrés et pas de précipitations prévues pour les jours à venir. Bonne fête aussi aux Zbyšek, le 20 mai, un nom typiquement tchèque. C'était Alain Slivinski avec le bulletin d'information. Bonne écoute de la suite du programme de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Merci à toutes et à tous d'être sur Radio Prague et merci à Alain Slivinski pour ce bulletin d'information. Au cours du prochain quart d'heure, nous reviendrons sur le premier déplacement à l'étranger du nouveau Premier ministre tchèque. C'est à Paris qu'était Jiří Paroubek ce mercredi pour participer à un meeting du Parti socialiste français en campagne pour le oui au référendum sur la Constitution européenne, un référendum qui aura lieu le 29 mai prochain, comme nous le dira Alena Gebertova. À Lešetice, en Bohême centrale, a été inauguré mercredi également un mémorial dédié aux opposants au régime communiste tchécoslovaque. Magda Segertova était sur place. Václav Richter reviendra quant à lui sur le décès d'une très grande actrice tchèque, Stella Zasvorková, disparue cette semaine à l'âge de 83 ans. Et c'est avec la gastronomie française que nous terminons cette émission, avec l'ouverture ce vendredi du premier marché bourguignon dans la capitale tchèque. Détail des produits à voir, mais surtout à manger et à boire avec Anna Kubišta. L'ensemble de la rédaction française vous souhaite une très agréable réception. Et on commence avec Alena Gebertova qui était mercredi à Paris avec le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek.
D'accueillir ce grand rassemblement de citoyens qui veulent faire progresser la démocratie et la justice en Europe, d'accueillir ce beau rassemblement de militants socialistes fidèles à leur parti.
C'est par ces mots que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a ouvert mercredi soir au Cirque d'hiver de Bouglione le grand meeting du Parti socialiste pour le oui au traité constitutionnel. Le premier ministre tchèque, Jiří Paroubek, était l'une des nombreuses personnalités politiques qui ont bien voulu y participer. Une présence hautement appréciée par le chef du Parti socialiste, M. François Hollande.
Si nous l'avons invité, c'est parce que nous considérons qu'il est très important qu'un pays ami comme la Tchéquie puisse, à travers son premier ministre, social-démocrate, venir à une réunion des socialistes européens pour la ratification du traité. Parce que nous avons des relations avec les Tchèques depuis longtemps, mais aussi parce qu'il y a des questions qui sont posées souvent en France sur l'élargissement à l'Est. Des craintes, des peurs qui sont souvent celles des tenants du non. Et c'est pourquoi il est très important que un ami tchèque, Premier ministre, vienne nous dire « Ayez confiance dans notre participation à l'Europe, ayez confiance dans notre conception même de l'Europe. Nous sommes des sociodémocrates, nous sommes des solidaires et nous venons dans l'Europe pour participer à un développement commun. Ce n'est pas pour vous prendre des emplois. »
Je suppose que c'était aussi le thème principal de votre conversation.
Ça a été le sujet principal parce que du vote des Français va dépendre aussi l'avenir du traité constitutionnel. Il y a un débat qui va avoir lieu dans quelques mois en République tchèque, qui a déjà été initié, savoir comment on doit ratifier, mais ça c'est pas notre problème. Notre souci c'est de faire que tous les pays puissent ratifier le traité constitutionnel. La France d'abord, et puis la République tchèque ensuite. Mais nous avons parlé aussi de la situation dans nos deux pays. Et moi je considère que les efforts qui sont faits maintenant depuis plusieurs années en République tchèque portent leurs fruits. C'est-à-dire qu'il y a un développement important de l'économie, il y a une croissance, il y a des augmentations de salaires qui permettent de comprendre que l'intégration à l'Europe, ce n'est pas un risque, ni pour les pays qui entrent, ni pour les pays qui y sont déjà. C'est une chance pour l'Europe d'être plus forte.
Le Premier ministre Jiří Paroubek, investi voilà près d'une semaine, a saisi de son côté l'occasion pour soutenir le oui français et pour expliquer la position de son gouvernement. Dans son discours prononcé au meeting, il a tenu à souligner.
Le gouvernement à la tête duquel je me trouve s'est fixé comme l'un des principaux objectifs la ratification du traité constitutionnel. La République tchèque veut participer activement au projet européen en tant que pays qui a eu à vivre longtemps sous un régime totalitaire et qui sait apprécier le prix de la liberté. Seule une Union européenne forte est à même de nous garantir cette liberté. Je crois qu'à la fin du mois de mai, l'Europe entière pourra être en liesse. Je crois en un oui français, je crois en un oui socialiste.
Et puisqu'il était question de liberté, un nom ne devait être omis à cette rencontre parisienne aux couleurs socialistes. Il a été évoqué par Jacques Lang.
C'est l'une des personnalités qui a incarné cette lutte pour la libération de l'Europe face aux joug soviétiques. C'est Vaclav Havel.
Et c'est aussi par Jacques Lang qu'un bref message de Havel, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour un séjour d'études de 2 mois, a été lu.
Même si je n'appartiens à aucun parti, votre invitation m'a touché. Aujourd'hui, dans une période décisive, le débat au sujet de l'intégration européenne est l'affaire de tous. Le débat auquel nous assistons en France ne concerne pas exclusivement les Français, mais les citoyens de l'Union européenne tout entière. J'ai plusieurs fois plaidé pour que l'Union européenne se dote d'une constitution, d'une loi fondamentale que même les enfants à l'école pourraient s'approprier. Ce qui est en jeu, c'est l'esprit même de toute l'intégration européenne. Et je considère que le traité européen apporte beaucoup de choses positives. Il sera source d'un vrai changement.
Un
mémorial dédié aux victimes de la dictature communiste a été inauguré mercredi dernier à l'emplacement de l'ancien camp de travaux forcés Vojna, près de Příbram, en Bohême centrale. Un des rares musées du genre en République tchèque qui jette une lumière crue sur les conditions très dures des prisonniers politiques des années 50, soumis aux travaux dans des mines d'uranium locales. Un reportage de Magda Segertova.
À une heure de route de Prague, au fin fond d'une forêt et au pied d'une colline du même nom, en tchèque Vojna signifie aussi la guerre, se trouvent les restes d'un des 16 camps de travail dans le pays, instrument de la répression communiste. Des centaines de détenus, parmi eux des prêtres, écrivains, philosophes, athlètes et héros de la Seconde Guerre mondiale, tous condamnés pour des délits politiques qu'ils n'avaient jamais commis, y ont passé des années les plus noires de leur vie, pour ceux qui ont survécu. Au début des années 1950, ils ont succédé dans le camp et dans les mines aux prisonniers de guerre allemands. Pourquoi l'État tchèque a-t-il décidé de reconstruire et d'ouvrir au public justement le camp Vojna? Explication de Josef Welfl en tête du musée minier de Příbram qui gère le mémorial.
En 1961, l'exploitation de l'uranium dans les trois mines, Vojna 1, 2 et 3, a été terminée et le camp a été fermé. Ensuite, c'est l'armée qui a pris possession de ce complexe et heureusement, elle n'avait pas les moyens de le rénover. Par conséquent, presque tous les bâtiments de l'époque ont survécu jusqu'à nos jours, c'est assez exceptionnel. Par exemple, le camp voisin de Bitis a été transformé en un centre pénitentiaire moderne qui n'a plus rien à voir avec le passé. Et c'est le cas de beaucoup d'anciens camps tchèques et étrangers.
Des barbelés, des baraquements aménagés comme à l'époque, des miradors, une minuscule cellule d'isolement souterraine où ont été enfermés par dizaines et pendant plusieurs jours les désobéissants. Autant de vestiges du passé communiste auquel le public est confronté. Mercredi matin, dans la grisaille et sous une pluie tenace, les rescapés de Vojna ont été parmi les premiers à visiter le mémorial fraîchement ouvert. Miloslav Beranek, 77 ans, a été détenu à Vojna pendant 5 ans. Était-il en contact avec sa famille? Pouvait-il au moins pour quelques jours quitter le camp?
Non, to vůbec ne. Tajlens byl akorát, jak se sem jede, tak tam byl návštěvní dům.
Ah non, pas du tout. Là, à l'entrée, il y avait un bâtiment où l'on recevait les visites. À moi, on a pu me rendre visite une seule fois durant ces 5 ans. Et quitter le camp, il suffisait de s'approcher des barbelés et les gardiens ouvraient le feu. Vous savez, ce n'est pas ma première visite du camp. On est venu avec mes amis quand l'armée était encore là. Si ça a beaucoup changé par rapport aux années 50, oui, effectivement. Si à l'époque, ça avait été aussi beau que maintenant, il ne manque plus que le vendeur de glace.
Miloslav Beranek, les témoignages d'autres prisonniers de Vojna dans notre émission de vendredi.
On la savait malade, mais il était difficile d'imaginer que cette comédienne, qui était une inépuisable source d'humour, pourrait disparaître. Désormais, c'est un fait. Stella Zasborkova nous a quittés à l'âge de 83 ans. Son portrait avec Václav Richter.
Dès que sa silhouette familière de petite femme dodue apparaissait sur la scène ou à l'écran, on pouvait être sûr que la bonne humeur n'était pas loin. Son physique et son talent comique la prédestinaient au rôle de femme de la classe moyenne, de milieu petit bourgeois. On n'oubliera jamais ses rôles de ménagère et de mère de famille, de toutes ces femmes ordinaires, un peu égoïstes, auxquelles elle donnait des traits psychologiques bien précis et un humour irrésistible. Elle connaissait bien la nature de son talent, elle ne cherchait pas à jouer des héroïnes dramatiques qui ne correspondait pas à son genre. Sa popularité était immense. Elle a joué dans 101 films, 297 productions de télévision, dans 20 séries télévisées et dans d'innombrables rôles au théâtre. Le théâtre, le film et le contact avec surtout des jeunes, c'était ma vie. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, a-t-elle dit il y a quelques années dans un entretien pour la télévision. Pourtant, sa vie ne manquait pas de déception. Elle a perdu son unique fille et après un mariage raté avec le comédien Miloš Kopecký, elle ne s'est pas remariée. Elle a donc vécu seule, partageant sa vie entre sa vocation de comédienne et ses nombreux amis, parmi lesquels il y avait les plus grands noms du théâtre tchèque du XXe siècle. Vers la fin de sa vie, elle était pratiquement la seule survivante de la grande génération des comédiens tchèques qui savaient si bien marier l'art dramatique et l'humour. Elle ne se laissait pas dompter par l'âge. La vieillesse est une chose terrible, mais c'est la seule possibilité de se maintenir en vie, disait-elle en citant le grand comédien et ami Jan Werich. Elle ne se faisait pas d'illusions sur la pérennité de l'art du théâtre.
Nous ne sommes rien sans les spectateurs. Vous savez, tous les autres artistes peuvent créer pour l'avenir, pour l'histoire. Le peintre, le musicien, l'écrivain peuvent agrémenter la vie de plusieurs générations. Mais pour le comédien, il ne reste qu'un seul moment éphémère, quand il rencontre les spectateurs vivants. Et c'est ce moment quand on est sur la scène.
Heureusement, grâce au cinéma et à la vidéo, le départ de Stella Zasvorkova ne nous semble pas définitif. Elle restera encore longtemps avec ses spectateurs pour lesquels elle transformait les moments éphémères d'illusion théâtrale en une source de rire et de bonheur.
Avis aux amateurs de gastronomie qui passeraient par la place Jungmann à deux pas de la place Venceslas à Prague ce vendredi 20 et ce samedi 21 mai. Des producteurs bourguignons installent en effet leur stand et proposent à la dégustation et à la vente des produits du terroir. Entretien avec Franck Rousselet, directeur de la maison de Bourgogne, qui a expliqué l'origine du projet au micro d'Anna Kubishta.
L'intitulé exact, c'est le marché du terroir bourguignon. C'est la première fois à Prague. Il y a deux maisons de Bourgogne à l'étranger, une à Mayence en Allemagne et une à Prague. Et à Mayence, c'est une longue tradition, c'est la 8e édition cette année. Tous les premiers week-ends du mois de juin, il y a un marché bourguignon où des producteurs du terroir, donc des quatre départements, se déplacent pour vendre leurs produits, pour faire déguster leur production. L'idée est germée de proposer la même chose au public tchèque pour faire connaître, découvrir la région sous un autre jour gastronomique un petit peu plus ludique, un peu plus agréable.
9 producteurs sur les 12 prévus au départ qui présentent leur vin, comme il se doit pour une région de grande tradition vinicole, mais aussi d'autres produits tels que des liqueurs, fromage fermier de brebis, foie gras, magret, rillettes, moutarde, biscuits, sans oublier les incontournables escargots, seront au menu des produits proposés. Opération séduction, donc, de la part de la Maison de Bourgogne pour attirer le promeneur amateur ou novice, tchèque ou francophone. Pourtant, les produits qu'on dit du terroir étant en général déjà plus chers en France, n'y a-t-il pas un risque d'avoir des tarifs peu abordables pour le pouvoir d'achat tchèque? C'est ce que j'ai demandé à Franck Rousselet.
Écoutez, moi j'ai vu les tarifs pratiqués à Mayence en Allemagne. Ils sont aussi chers, voire même moins chers que les tarifs que l'on peut trouver en grande surface à Prague. Et j'ai déjà donc informé les producteurs en leur disant que le pouvoir d'achat tchèque n'était pas le pouvoir d'achat allemand. Ils ont consenti à réduire encore leurs prix. J'ai pas en tête tous les prix, mais je sais que les prix seront très abordables. Il y aura donc dégustation sur place. Et puis pour ceux qui veulent apporter ensuite chez eux des plats cuisinés, fromage et autres, il y aura donc la possibilité d'acheter auprès des producteurs.
Et qu'en est-il de la coopération entre la Bourgogne et la Bohême centrale qui ont des liens historiques de longue date? Qu'en est-il de l'avenir proche? Réponse de Franck Rousselet.
L'année prochaine, ce sera le 15e anniversaire de la Maison de Bourgogne à Prague. Donc on essaye justement de réfléchir à des manifestations un petit peu plus visibles, un peu plus concentrées. Justement, pour moi, le marché bourguignon, c'est en fin de compte une générale. Peut-être avant une manifestation un peu plus importante de ce caractère l'année prochaine. Si toutefois les producteurs sont contents, s'ils ont le désir de revenir, on pourrait faire quelque chose un peu en plus grand.
Et avant d'oublier, je tiens à vous rappeler le grand concours 2005 de Radio Prague. Pour y participer, vous le savez déjà, il vous suffit de répondre à la question suivante. La bière tchèque, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'au 15 juin au plus tard à notre adresse postale, Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99 Prague 2. Je répète, Vinohradská 12, 120 99 Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi utiliser le courriel à l'adresse cr@radio.cz. Le premier prix est un séjour d'une semaine en République tchèque pour 2 personnes. Les auteurs des autres meilleures réponses seront récompensés par des prix de valeur et leurs noms seront publiés sur notre site web. Le séjour d'une semaine est gracieusement offert par l'hôtel Falkensteiner Maria Prague, dans une atmosphère familiale de style en plein centre de Prague, et les billets d'avion sont offerts par la ligne aérienne tchèque, votre partenaire lors de vos voyages en République tchèque. Merci d'avoir été attentif à notre émission Faits et événements République tchèque. Restez sur notre antenne. Dans un instant, les Tchèques célèbres et moins célèbres. Aujourd'hui, Jarka Gregorova vous présente le pilote de chasse Jindřich Beran. Merci à toutes et à tous. Au revoir.
les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
France, douce France. La douceur était parfois rude pour les pilotes de chasse qui ont combattu au service de l'armée de l'air française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parmi eux s'inscrit le pilote de chasse tchèque Jindřich Beran, dont l'engin fut abattu au-dessus du territoire belge le 12 mai 1940. Décoré posthume deux fois de la croix de guerre tchécoslovaque et de la croix de guerre française avec une palme, il a été élevé au grade de lieutenant-colonel en 1947 et une quarantaine d'années plus tard au grade de colonel. J'ai pu rédiger l'article sur Jindřich Beran grâce aux ouvrages sur les pilotes de guerre du remarquable historien Jiří Rajlich, reconnu sur le plan international. Les informations de l'historien sur le sujet sont très précises. Jiří Rajlich est auteur et co-auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages, d'articles et d'études sur l'histoire des armées de l'air françaises et britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces livres ont été publiés également à l'étranger. Jindřich Beran est né le 15 novembre 1905 à Rožná pod Perštejnem, en Moravie. Il passe le baccalauréat au lycée technique de Nové Město na Moravě, ville proche de son lieu de naissance. Il commence à travailler comme instituteur, mais les différends continus avec le comte de la région le lassent. Après à peine 2 ans d'activité dans l'enseignement, il entre à l'école des officiers d'infanterie de réserve à Olomouc, en Moravie, pour y faire son service militaire. Il termine en 1927 et décide de faire militaire de carrière. Jindřich Beran continue ses études à l'académie militaire. En grade de lieutenant, il est détaché en Slovaquie, où il prend le service auprès du régiment de chasseurs 4 et 5. Aussitôt, on remarque ses capacités exceptionnelles. Il est envoyé en stage en Bohême, auprès de la 66e escadrille d'observation. Ainsi, Jindřich passe de l'infanterie à l'armée de l'air. 3 ans plus tard, il est détaché à l'aéroport militaire de Kbelí, à Prague, où il suit une instruction pour pilote de chasse. 2 ans passent, et Jindřich Beran est détaché à Olomouc en grade de premier lieutenant. À noter que l'escadrille était équipée de biplans Letov Che-328. Ensuite, il revient à Prague auprès de l'escadrille lourde de bombardement, d'où il passe à Brno. Il est certain que Jindřich Beran a l'étoffe d'un commandant. Pas étonnant que ses supérieurs le recommandent pour les études à l'école supérieure de guerre de Prague. C'est un excellent étudiant qui est déjà en première année élevé au grade de capitaine. Suite à la décision du ministère de la Défense nationale, il est envoyé à Paris pour suivre des études à l'école de guerre d'aviation. Il est en train de suivre les stages en France auprès des unités de l'armée de l'air, alors que fin octobre 1938, il est rappelé en Bohême. Il est chargé du commandement de la 40e escadrille de chasse du régiment 4 de l'armée de l'air, équipée par les engins Avia B-534. Mais après l'occupation du pays par les Allemands, l'armée tchécoslovaque est dissoute. Jindřich Beran ne veut pas rester les bras croisés à travailler quelque part dans un bureau. Il passe la frontière polonaise et avec quelques pilotes tchécoslovaques, il s'embarque pour le pays du coq gaulois. En France, le pilote suit une formation à Chartres. En décembre 1939, il fait partie du premier groupe des pilotes de chasse envoyés au front occidental. Il est considéré comme un excellent pilote de guerre. Jindřich Beran accompagne les patrouilles françaises de reconnaissance Potez 63 au survol du territoire allemand. Mais c'est sa patrouille tchécoslovaque à 3 membres, dont il est au commandement, qui se fait particulièrement remarquer au cours des vols opérationnels. Le capitaine Jindřich Beran est le pilote de chasse tchécoslovaque le plus âgé et le premier pilote de chasse tchèque abattu au cours de la bataille de France. Il a été enterré à Veteren, en Belgique, non loin de l'endroit de sa destruction en l'air. Le 15 octobre 1950, la famille de Jindřich Beran demande l'exhumation de sa dépouille mortelle. Lors de cette cérémonie solennelle, les citoyens de Veteren ont rendu les honneurs suprêmes au pilote tchèque. La dépouille a été déposée au caveau de famille à Rožná pod Pernštejnem, lieu de naissance de Jindřich Beran. Il est le seul pilote tchécoslovaque reposant éternellement dans sa patrie, car en décembre 1963, les dépouilles mortelles des autres pilotes de chasse, exhumées des lieux de sépulture, ont été déposées à la Targette près de Arras. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous restons toujours prêts à vos remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.